Micro Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. À propos des studios de Micro Rebelle, notez bien le fait que nous avons déménagé. Nous sommes toujours à Liévin, mais en centre-ville, au 13 rue Victor Hugo, à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta. Notez bien cette adresse, donc 13 rue Victor Hugo, et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne, à propos de l'actualité dans le bassin minier, ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM sur 99.9 et de Radio Plus sur 104.3. Qui est en studio aujourd'hui? Je fais rapidement un tour de table, sachant que chacun pourra, s'il le souhaite, se présenter davantage. Je suis donc Lucien, militant à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle. Luc est salarié à Micro Rebelle.
Bonjour à toutes et à tous.
Enfin, Aurélie est parmi nous. Donc Aurélie fait partie des jeunes de Micro Rebelle. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et toujours parmi les jeunes de Micro Rebelle, nous sommes avec Jonathan. Bonjour Jonathan.
Je reviens de loin, soyez du jour.
Donc effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu Jonathan. Ben, bienvenue parmi nous Jonathan. Donc après ces rapides présentations, je vous propose peut-être de revenir sur l'actualité dans le bassin minier. Et notamment l'actualité du moment. Hein. L'actualité du moment, c'est évidemment le mois de novembre 2018 dans le bassin minier, avec les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale 100 ans après. Alors on peut clairement dire que le bassin minier s'est mobilisé, ou plutôt que les collectivités, les institutions se sont mobilisées et ont tenté de mobiliser la population. Par exemple, La Voix du Nord relate que le village d'Ablain-Saint-Nazaire, donc juste à côté de Liévin, hein, Ablain-Saint-Nazaire, Souché, Angre, Liévin, donc le village d'Ablain-Saint-Nazaire a réuni 500 enfants au cimetière de Notre-Dame-de-Lorette. Le journal précise que ces enfants ont montré, je cite, que leur génération était prête à assurer le devoir de mémoire transmis par leurs aînés. Fin de citation. Dans le même esprit, la mairie de Lens a prévu que le 11 novembre, les enfants lisent des lettres de Poilu. Par ailleurs, la mairie, donc de Lens toujours, invite également, je cite, « les habitants et les habitantes à pavoiser leurs maisons ou leurs appartements avec un drapeau tricolore pendant toute la journée du 11 novembre 2018 », etc., etc. Les villes du bassin minier s'inscrivent dans une commémoration patriotique en y entraînant notamment les enfants des écoles. Bref, les cérémonies du 11 novembre sont donc patriotiques et militaires, et évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Et en premier lieu, puisqu'on parle de mémoire, de quelle mémoire et de quels événements parle-t-on? Par exemple, l'histoire sociale semble peu digne de mémoire. Par exemple, que sait-on et que savent les élèves, puisqu'on parle des élèves des écoles, des enfants des écoles, que savent les élèves des rapports de domination qui s'exercent dans la société du début du XXe siècle, donc en 1914-1918? Connaît-on la surreprésentation des ouvriers et des paysans dans les tranchées et leur soumission aux autorités? Et enfin, ces opérations mémorielles évoquent-elles l'intérêt bien compris des industriels de l'armement à prolonger la guerre? Autant de questions qui ne sont absolument pas abordées. tout un pan de l'histoire du conflit se trouve ainsi gommé de la commémoration au profit d'une prétendue culture de guerre, très hypothétique élément de langage dont la simple énonciation devrait, à elle seule, expliquer la mort de millions de combattants. En clair, si tant de jeunes sont morts pendant la guerre, c'est qu'ils y auraient librement consenti. Et tout cela contribue à ignorer des questionnements dont l'importance est sans doute bien plus fondamentale. Par exemple, des questionnements sur les causes des guerres, toujours futiles au regard des résultats. Les résultats en millions de morts, y compris. Questionnements sur l'obligation faite à des millions d'hommes de sacrifier leur vie pour défendre des frontières qui ne sont jamais qu'un pointillé sur une carte. Questionnements sur l'obéissance aveugle exigée par des chefs abusivement qualifiés de héros. Questionnement enfin sur l'identification factice et arbitraire à une nation qui voudrait faire croire qu'on meurt pour son pays, alors que l'on meurt en réalité à cause de son pays, ou plus exactement, d'une certaine conception de la vie en collectivité, arc-boutée sur la nation comme à un dogme intangible. Rappelons à ce sujet l'appréciation d'Anatole France, « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Au final, ces commémorations servent sans doute d'abord à justifier les options politiques du pouvoir, servent à verrouiller le débat sur les budgets militaires inconsidérés, sur les interventions militaires répétées et sur les contrats d'armement conclus avec les pires régimes autoritaires. Ainsi, le 11 novembre à Paris, autour de Macron, Trump et Poutine, les dirigeants des trois plus gros exportateurs mondiaux d'armement, trois fauteurs de guerre, ce n'est pas la paix qui est célébrée, mais la guerre. Ça nous semblait important d'exprimer ainsi une autre vision du grand barouf mémoriel et médiatique à l'œuvre actuellement dans les communes du bassin minier. Je voulais terminer cette actualité sur ce sujet. Et donc, pour l'agenda social et culturel des jours à venir, je laisse la parole à Aurélie et à Jonathan.
Le samedi 10 novembre à 10h aura lieu une conférence-débat avec Jean-Luc Pasquinet, co-auteur du livre Nucléaire, Arrêt immédiat, au Lag à Liévin, au 23 avenue Jean Jaurès. Toujours le samedi 10 novembre, aura lieu dès 20h au Lag, toujours 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, un concert des Blood Sisters et de Pipo Solo. Donc les Blood Sisters sont un groupe composé de deux sœurs qui s'amusent à reprendre des chansons rock, metal ou encore pop, tandis que Pipo Solo propose une musique originale qui vous fera voyager dans un autre monde. Le concert est bien sûr toujours comme d'habitude fixé à prix libre au Lag. Au Lag.
Alors, le samedi 10 et le dimanche 11 novembre, on se retrouvera à Arras pour clôturer Arras Film Festival. Le programme est disponible sur le site internet arrasfestival.com. C'est l'occasion de visionner des films à moindre coût, mais aussi de rencontrer les réalisateurs de ces films diffusés, parfois en avant-première. Samedi 10 et dimanche 11 novembre, toujours, aura lieu le Forum d'Histoire et de Généalogie à Méricourt. Celui-ci se tiendra à la salle Jean Villard ce week-end. Deux expositions seront présentées notamment en lien avec la Première Guerre mondiale. L'une sera sur Méricourt dans la tourmente de 14-18 et l'autre sur la reconstruction agrémentée de photos et de courriers. Alors maintenant, toujours le dimanche 11 novembre, aura lieu la pièce de théâtre L'Armée des Silencieuses à 15h30 à la salle Louis Aragon située à l'espace culturel Jean Verra à Avion. La pièce parle de la vie des femmes durant la Première Guerre mondiale, au-delà de décrire leur vie et leurs engagements. La pièce attente sur la place sociale de la femme avant la guerre et l'évolution des droits de celle-ci. Jusqu'au droit de vote en 1944, l'entrée est gratuite sous réservation au 03 21 79 44 89. Toujours le dimanche 11 novembre, on se retrouve au complexe sportif Paul Barrois à Wauchi, les Mines, pour la nouvelle pièce de théâtre de l'association La Scie au Arsat, intitulée La Revue de la Paix à 17h. L'entrée est gratuite. Et on a eu un événement ce matin, c'est une réunion sur Lens au niveau du parking Leroy Merlin. C'est une réunion pour la hausse du carburant. C'est de 9h30 à midi. Alors, soyez nombreux pour pouvoir diffuser des tracts ou bien mettre des banderoles au niveau des autoroutes.
Le mardi 13 novembre, on se retrouve à 18h pour l'inauguration de l'exposition organisée par Intercollectif ROMS 5962 à la MRS, RES, au 23 rue Gosselet à Lille. Donc l'exposition porte sur les déménagements forcés et souhaite alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics sur l'urgence de mettre en œuvre une stratégie territoriale positive de résorption des bidonvilles qui favorise l'insertion des personnes qui y habitent aujourd'hui. Le même jour aura lieu dès 19h un ciné-débat du collectif citoyen de Buis-les-Mines à l'espace François Mitterrand, situé lui aussi à Buis-les-Mines, sur le thème « Les migrants, tout le monde en parle, derrière les discours, quelle réalité ?» avec la projection du film « Hop ». Le jeudi 15 novembre, le LAG reçoit Jean-Marc Rouillant, auteur qui parlera des faits qui l'ont amené en prison. Donc c'est l'objet de la parution de son livre « Des 10 ans d'action directe », un témoignage de 1977 à 1987 à partir d'un texte écrit en prison il y a près de 20 ans qui ne pouvait être publié à l'époque. Donc ce soir-là, le LAG reçoit également Aurélien Dubuisson à propos de son livre « Action directe, les premières années, genèse d'un groupe armé, 1977-1982 ».
Alors le samedi 17 novembre, CLIS 21 vous propose une rencontre exceptionnelle avec l'historienne Ludivine Bandini. Tout au long de cette année 2018, celle-ci a parcouru la France et plusieurs pays, européens et nord-américains, pour échanger sur le sens de mai 69. 50 ans après...
68.
Ah, excuse-moi, il y a une faute pour ça, j'ai une façon. Mai 68, 50 ans après, chacun des européens et nord-américains pour échanger sur le sens de mai 68... Alors 50 ans après, chacun de ces échanges ont mené en appui sur son livre intitulé 1968, de grand soir en petit matin. Celle-ci a donc accepté l'invitation de CLIS 21 à participer à un débat pour celles ensemble. Ce samedi 17 novembre de 10h à 12h30 au lac de Liévin. Les thématiques suivantes qui seront traitées de l'autogestion, les femmes ainsi que les négociations du Grenelle en 68. Le même jour à 14h, au lac aura lieu la foire aux installes de CLIS 21. C'est une bonne occasion de franchir le pas et d'installer GNU Linux sur son ordinateur. Le principe est toujours le même que d'habitude, vous venez avec votre tour et nous vous aidons durant toutes les phases de l'installation. Et il ne faut pas oublier aussi que le 17 novembre, il y aura le blocus contre la hausse du carburant. Alors il y a le rendez-vous à 8h sur le parking de Corallance 2 pour une heure d'escargot vers le rond-point de Carrefour et de Nouveau-Rotoval-Liévin. C'est jusqu'à normalement 23h maximum, donc prévoyez de prendre des boissons et de la nourriture.
Le lundi 19 novembre aura lieu à 20h au Ciné Movida à Arras, un ciné-débat autour du film En Guerre, un film de Stéphane Brisé, avec entre autres Vincent Lindon. Donc le film parle de l'usine Perret Industries qui, après de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de l'entreprise, la direction a décidé la fermeture du site. Accords bafoués, promesses non respectées, les 1100 salariés emmenés par leur porte-parole, Laurent Amedeo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Donc le ciné-débat sera animé par Paul Masson.
Bien, merci Aurélie, merci Jonathan. Donc on est toujours sur microrebelle.fr et chez nos amis de Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3. Une petite revue de presse hein, que nous avions envie de vous proposer. Alors je vais commencer par vous présenter un journal que j'ai découvert. Hein, c'est le journal Pour écrire la liberté. Hein, c'est la première fois que je le vois dans les kiosques. Hein, je l'ai vu à la gare de Lens, je l'ai vu aussi dans des kiosques de supermarchés. Donc je l'ai acheté, c'est un journal belge en fait, hein. C'est un journal belge qui paraît tous les deux mois, puisque là j'ai le numéro d'octobre-novembre 2018 sous les yeux. Et donc derrière ce journal, hein, c'est le numéro 4, hein, numéro 4 pour octobre-novembre 2018, derrière ce journal, en fait il y a une coopérative, hein, une coopérative d'édition, et j'avais envie de vous lire le projet de cette coopérative belge. Donc notre projet, donc c'est le journal qui s'exprime, hein. Nous sommes une coopérative d'édition créée le 31 janvier 2017 et qui a pour objectif de contribuer à l'édification d'une société démocratique, libre, juste, solidaire et durable. Elle développe, donc cette coopérative, dans cette perspective, un bouquet d'outils multimédia tels qu'un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, des outils audio et vidéo, un journal d'intervention de masse, donc le journal pour, des cahiers politiques et des conférences débat. Ses objectifs s'axent autour de 5 grandes thématiques. Créer un lieu d'information, de proposition, de rencontre, de convergence, de débat et d'action. Diffuser des analyses basées sur des données factuelles, documentées et pédagogiques qui mettent en critique l'idéologie de la compétitivité qui entre dans les cœurs et les esprits par la religion du marché et de la croissance à tout prix. Favoriser l'émergence d'une démocratie citoyenne et le développement d'une société libre, juste et solidaire. Inciter les lecteurs et coopérateurs à être acteurs de changement par le soutien au maillage d'initiatives citoyennes positives. Et enfin, développer les débats citoyens au travers d'outils performants. Donc, au-delà de ce journal, hein, on voit qu'il y a différentes choses, un site internet, des réseaux sociaux, des thématiques. Alors, en fait, Wikipédia, sur lequel j'ai fait une petite recherche, nous apprend que pour, à l'origine, était un journal hebdomadaire belge, donc fondé en 1973. Donc ça commence à dater, hein, ça fait 45 ans. Les locaux de Pour furent incendiés par des militants d'extrême droite en 1981 et il a cessé de paraître en 1982. Il a commencé à rééditer de nouveaux numéros en 2015 et le fondateur de Pour, Jean-Claude Garot, est le rédacteur en chef du journal que j'ai entre les mains en 2018. Il y a donc bien une continuité entre le pour des années 70-80 et le pour actuel. Donc je ne connaissais pas ce journal belge et je dirais, ma foi, que c'est une bonne surprise. Le numéro 4, d'octobre-novembre 2018, c'est un numéro de 24 pages, en couleur, il coûte 3 euros. Ce chouette numéro est entièrement consacré à la question des migrants, avec des articles qui analysent les politiques d'immigration au XXe et XXIe siècle, ou encore un article sur l'enfermement des migrants, en fait un business florissant. Bref, un numéro vraiment intéressant, un numéro engagé, très humain et très politique. C'est une lecture que nous pouvons recommander. On attend le prochain numéro. Donc après Pour, on va s'intéresser à Liberté Hebdo. Dans Liberté Hebdo, il y a une interview de Aurélien Dubuisson. Alors, Aurélie en a parlé dans son agenda. Hein, donc jeudi 15 novembre, au LAG à 19h, Jean-Marc Rouillant, d'Action Directe, vient présenter son livre, mais il est accompagné de Aurélien Dubuisson. Donc Aurélien Dubuisson, il est né en 1985, donc il n'a pas du tout participé à cette époque. Hein, il venait de naître, en quelque sorte. Aujourd'hui, il est doctorant en histoire au Centre d'histoire de Sciences Po. Et il vient donc présenter son livre « Action Directe, les premières années ». C'est donc la genèse d'Action Directe, entre 1977 et 1982, les premières années d'Action Directe. Alors l'article de Liberté Hebdo nous propose une interview de Aurélien Dubuisson. On y apprend notamment que Action Directe, à ses débuts, se réunissait et intervenait dans le Pas-de-Calais et notamment dans le bassin minier. Pour terminer, un article de La Voix du Nord, donc puisqu'on vient de parler des migrants avec le journal Pour, un article consacré à l'expulsion des migrants soudanais du camp de Angres. Donc cette expulsion, elle a eu lieu fin octobre, il y avait 32 migrants soudanais, dont 6 enfants. Et cette expulsion, elle est consécutive à un arrêté préfectoral pris le 10 octobre. Alors malheureusement, on peut regretter que La Voix du Nord se contente purement et simplement de relayer la communication de la préfecture, sans aucun regard critique. Hein. La réalité de ce qui s'est passé, c'est que les forces de police ont démantelé un camp de migrants. C'est comme ça que ça s'est passé. On en a eu confirmation par le collectif Fraternité Migrants. Et pour La Voix du Nord, en titre, c'est une opération, je cite, « de mise à l'abri des migrants ». Alors, parler de mise à l'abri des migrants quand il s'agit de démanteler un camp, ça nous semble un petit peu un raccourci extrêmement hâtif. Alors c'est vrai que c'est ce que dit la préfecture. De même, La Voix du Nord reproduit mot pour mot le communiqué de la préfecture. Je cite La Voix du Nord et donc le communiqué de la préfecture. « La proximité de l'axe autoroutier comportait des risques de mise en danger de la vie de ces personnes et de celle des usagers de la route du fait des tentatives de monter dans les camions et les véhicules. » De même, La Voix du Nord cite les associations d'aide aux migrants en leur faisant dire qu'elles avaient alerté le préfet, je cite, « sur la situation inhumaine que vivent les migrants à Angres ». Alors c'est vrai que les associations dénoncent la situation des migrants, mais elles disent également, hein, on a eu l'occasion d'interviewer des représentants du collectif sur Micro Rebelle, elles disent également que la solution, ce n'est pas d'expulser et de démanteler les camps. Et ça, La Voix du Nord ne le dit pas. Rappelons qu'à Angres, il y avait un camp solide en dur, dans lequel il n'y avait pas de problème de sécurité, et que c'est la préfecture qui l'a fait démanteler. En l'espèce, la Voix du Nord devrait prendre un peu de recul vis-à-vis de la préfecture. Bien, cette revue de presse est terminée. On va
donc mettre un peu de musique.
Peut-être mettre un peu de musique, Luc.
Voilà, un groupe qu'on a passé il y a quelques semaines et que j'avais beaucoup apprécié. Donc là, je suis tombé sur un album live sur Free Music Archive. Le groupe, c'est True Love, c'est de la soul funk. Ça vient de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Et le titre qu'on vous propose tout de suite, c'est Kabuki.
Thank you.
écoutez toujours Micro Rebelle Hebdo, le magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier de Micro Rebelle. On peut écouter ça en direct sur notre site internet microrebelle.fr. C'est également rediffusé sur Radio PFM 99.9 à Arras et sur Radio Plus à Douvrin sur le 104.3. On va maintenant écouter un reportage, c'est plutôt une interview que nous avons réalisée il y a 2 semaines de ça, au sujet du livre « Chemin et mémoire » qu'a écrit Paul Masson. Donc « Chemin et mémoire », c'est une autobiographie parue aux éditions Le Petit Pavé et qui retrace en quelque sorte son parcours de militant et ses interrogations sur les évolutions de la société. Voilà, pour résumer très très brièvement. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux nous donner les motivations du livre ? Pourquoi tu as raconté l'histoire de ta vie et comment on choisit ce qu'il y aura dedans ?
Pourquoi j'ai raconté ? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait toute une génération qui avait conduit des actions et qu'il y avait une nouvelle génération qui ne savait pas ce qui s'était passé et surtout qui était demandeuse de comprendre ce qui s'était passé. Je fais régulièrement des informations civiques et à partir de 1995, les manifs de 1995, j'ai vu revenir dans la formation des jeunes, pas très jeunes, mais de 30-35 ans, qui s'étaient mobilisés à l'occasion des manifs et qui venaient pour réussir à comprendre quels étaient les enjeux. Et je crois qu'il y avait ce souci de dire, faut que tu fasses connaître pas seulement ce qui s'est fait, mais la démarche qui a permis que ça se fasse. Je crois que j'avais ça comme souci, en pensant à la génération d'après.
Et donc, tu as choisi des moments qui, pour toi, illustraient le mieux cette période ?
Ce que j'ai choisi, c'était... Moi, je me suis investi dans l'éducation populaire toute ma vie. J'ai commencé à la JOC, j'avais 15-16 ans. Et je suis toujours engagé par rapport à l'éducation populaire. C'est-à-dire que le questionnement que je voulais faire apparaître, c'était « Mais comment ça se fait que tu as investi là-dessus ?» Le premier aspect du livre, c'est de la prise de conscience que la culture du milieu familial était inadaptée à l'école et que la culture de l'école était inadaptée dans mon milieu familial. Je me baladais de l'un à l'autre en étant jamais satisfait, ni à l'école, ni à la famille, et ça. Et ça a été source de difficultés, d'autant plus que j'avais, étant dyslexique, des difficultés scolaires. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer par-dessus. Donc ça a été source de tension. Et je crois que quand j'ai compris comment s'était organisée l'école, comment était organisée la société et les conflits de culture qui existaient, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose qui me permettait d'avoir prise sur ma vie. Et donc c'était ça que je voulais faire connaître. Et après, avec les engagements que j'ai pu prendre, ça a énormément bougé, puisque je commence dans les années 70 et je finis dans les années 2000. Donc on a un parcours sur 30-40 ans. Et l'éducation populaire va prendre des formes très différentes, la société va prendre des formes très différentes. Et j'ai vécu de l'intérieur tout ce processus, et ça me paraissait intéressant d'en rendre compte.
Les silences et les doutes de mon père engagé dans la lutte ont été pour moi un enseignement. Ils m'ont montré une voie, un modèle pour aller dans la vie, laisser la place aux doutes et avancer en cherchant son chemin. Avancer au jour le jour, même lorsque l'on ne sait pas où l'on va, est un moyen de conduire sa vie. Il m'a appris que l'avenir n'est pas écrit d'avance, que la vie se construit en marchant.
Donc c'est plutôt un livre intergénérationnel, pas un livre qui s'adresse à des gens qui auraient vécu comme toi la même expérience et qui pourraient se la remémorer, mais c'est plutôt pour renseigner des nouvelles générations.
Une fois que tu as fait le livre, c'est les gens qui s'en saisissent. Et effectivement, il va y avoir parmi les gens qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours, des gens de ma génération qui ont vu, qui ont fait des références à eux, de dire « Ah ben oui, j'ai connu ça et tu restitues quelque chose qui, dans lequel je me retrouve. » Et on a aussi des nouvelles générations qui se saisissent du livre plutôt à dire « Ah ben oui, il y avait ça et ça nous permet de comprendre maintenant. »
Au fond de moi, je pense, il ne nous aime pas parce qu'on n'est pas comme lui. Aujourd'hui, je sais que ce jour-là, j'ai été humiliée. J'en ai gardé de la colère et ai développé une attention sensible aux humiliations sociales. L'accent nous rattache à une famille, un quartier, un terroir, un milieu. Premier élément de la construction sociale, il nous arrive dès le ventre maternel, nous est constitutif. Juger l'accent d'un enfant, c'est induire un déterminisme social. Porter un jugement négatif sur cet accent, c'est condamner ses origines familiales, son terroir, son milieu. C'est condamner l'enfant dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il est.
Tu parles de choc des cultures entre l'école et la famille, de la pression sociale qu'exerce la culture pour sélectionner les futures élites. Tu parles aussi de combat culturel, tu parles de culture émancipatrice. On peut se demander comment ce qu'on appelle culture peut être des choses aussi opposées.
Quand je parle de culture, au sens où je l'entends, la culture de quelqu'un, c'est ce dont il dispose pour comprendre le monde dans lequel il vit et de pouvoir agir dessus. C'est ça la culture. Et il n'y a pas une manière de comprendre le monde pour agir dessus. Il y en a plusieurs. Et selon l'endroit, la place dans la société qu'on a, c'est pas le même modèle culturel qui nous sera le plus efficace. Donc, c'est en ce sens-là que j'entends qu'il y a des cultures, parce que les différents positionnements qu'on a dans la société font qu'on n'a pas les mêmes intérêts à défendre. Et donc, on n'a pas besoin de s'y prendre de la même manière.
Ce combat culturel dont tu parles, est-ce que c'est un combat contre l'uniformisation culturelle ?
Pour moi, le combat culturel, il est émancipateur. Je m'émancipe, c'est-à-dire je prends du recul sur le conditionnement que j'ai pu avoir, quel que soit mon milieu social. J'ai été construit, j'ai été conditionné au départ, et c'est pas possible de faire autrement. Et il y a nécessité que ce conditionnement, j'en prenne conscience, et pour savoir qu'est-ce que j'entends faire de ma vie, et comment j'entends agir sur le monde, avoir un certain pouvoir, et ne pas subir ce que d'autres ont pensé pour moi ou veulent me faire passer.
Un autre thème très présent dans le livre, c'est la formation, puisque tu étais formateur professionnel. Donc tu évoques beaucoup ton parcours de formateur. Quel sens ça a de le partager dans un livre ?
La formation, c'est une des manières de permettre ce travail d'émancipation culturelle pour pouvoir m'émanciper de mon conditionnement, faut que je réussisse à comprendre quelle était la forme qui m'a été donnée. Dans la formation, il y a l'idée de forme. On m'a mis une forme. J'ai été conditionné par ça. Cette forme, qu'est-ce que j'en fais ? Je la garde, je la fais bouger, je me forme ou je subis la formation, le formatage qu'on m'a donné. Et ça passe par du travail de formation. De formation n'étant pas un enseignement, la formation. Je ne le conçois pas comme je viens vous apporter la bonne forme. Non, je viens travailler avec vous quelle a été la forme de votre conditionnement et quelle forme vous voulez vous donner. C'est ça la formation.
Comment le livre peut-il également s'inscrire dans une démarche d'éducation populaire ?
Quand tu me posais la question, je pensais ce que je suis en train de, ce que j'ai développé au niveau théorique, ça paraît relativement compliqué. Par contre, le livre, tel que lui il est formulé, c'est ben voilà mon parcours, c'est des expériences de vie. Et l'expérience de quelqu'un donne un éclairage vivant de ce qui s'est joué. En même temps, mon livre, c'est pas seulement un livre théorique sur l'éducation populaire. C'est mon angle d'approche de ma vie. Mais on va y retrouver ce que toute vie d'homme a. À la fois les difficultés qu'il a pu vivre, à la fois ses échecs, ses réussites. Et donc, ça donne corps à quelque chose, à une approche de la culture, mais vivant à travers le parcours d'un individu.
Le 21 avril 2002, le verdict des élections tombe sévère. Le Pen obtient presque 20% des voix au premier tour des présidentielles. Il est devant Jospin, le leader socialiste. Surprise générale, gifle en pleine figure, coup de poing. Je suis furieux contre la société, contre les autres, contre moi. Colère de l'impuissance, une colère plus forte que le désespoir. Nous avons tout faux. Je sentais bien que nous, acteurs de l'éducation populaire, étions dans une ornière. Parfois même, je craignais que nous soyons dans l'impossibilité d'en sortir. Et aujourd'hui, le résultat des élections confirme mes intuitions. Nous sommes sur une fausse piste. L'absence, pendant 20 ans, d'une véritable éducation à la démocratie, d'un véritable éveil politique, a favorisé la montée de l'extrême droite.
Sur la question de la transmission, de savoir, de savoir-faire, d'expériences vécues, comment ce livre pourrait amener d'autres personnes à d'autres formes, à d'autres niveaux de conscience? Qu'est-ce qui doit être transmis?
Soi-même, on pense le livre et puis on se met à l'écrire. Et le livre, après, il a sa propre vie. Les gens qui vont lire le livre, ils vont se l'approprier d'une manière ou d'une autre, en fonction de leurs propres besoins à ce moment-là. Je fais des animations autour du livre et je propose de parler sur les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui les a frappés. Et c'est très très intéressant de s'apercevoir que d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre, ils ont lu le même livre et on a l'impression quand ils parlent, qu'ils parlent de livres différents. Parce qu'ils insistent sur un aspect, ils insistent sur un autre, c'est-à-dire c'est le lecteur qui se saisit du livre, et c'est plus l'auteur qui impose son approche. Il donne quelque chose qui permet au lecteur de s'en saisir et de se nourrir en fonction de ce qu'il a besoin, ou de dire « c'est inadapté pour moi, je le laisse tomber », tout ce qui est le plus légitime par rapport à un livre.
Une abeille, lorsqu'elle est agressée, pique et meurt. Si les abeilles arrêtaient de piquer pour ne pas mourir, leur race survivrait-elle? Qu'est-ce qui conduit des humains à refuser la résignation? Leur sentiment d'indignation est-il le fruit d'une culture, de l'expérience rationnelle? Le constat qu'à plusieurs, il est possible d'influer sur les cours de choses, ou simplement un réflexe de survie du corps social.
Écrire un livre pour toi qui est dyslexique, qui a plutôt mal vécu la période scolaire, qui s'est instruit seul avec beaucoup de volonté, ça a été quel genre de projet? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du défi, de la revanche? Ou est-ce que, je reviens à cette question de la transmission, est-ce que c'était là l'unique but de l'écriture?
Incontestablement, je pense que dans le fait de réussir à écrire un livre, le faire publier, de trouver une maison d'édition qui dise que cet ouvrage a suffisamment de valeur, il y avait un côté défi. Et en même temps, ce livre est né aussi d'un travail que j'ai fait en atelier d'écriture, c'est-à-dire apprendre à laisser venir de soi, à travers son écriture, ce qui est fondamental. Et il n'y aurait pas eu le travail d'atelier d'écriture. Si j'avais fait quelque chose, j'aurais plutôt fait un manuel sur l'éducation populaire. Tandis que là, ça n'a rien du manuel. C'est laisser venir qu'est-ce qui était le plus important à travers sa propre histoire, pour que les gens puissent s'en saisir et en faire ce qu'ils en veulent et s'en nourrir comme en fonction de leurs propres besoins.
Écrire sa biographie
servira, mais je ne pense pas que ce soit lié au regret.
Il est de beaux oiseaux qui éclosent dans la tourmente. Et la lourdeur des marécages qu'ils ont dû traverser dès leur première aurore leur colle aux plumes infiniment. mais ils s'envolent. Et sous le pli écorché de leurs ailes, à la source de leurs blessures, une sève invisible, comme un surplus de vie, les pousse et les nourrit. Et ils s'envolent, haut, plus haut que les autres oiseaux, pour échapper peut-être à cet ancien marais qui les suit de sa brume. Et ils s'envolent pour mieux voir les déserts et les fleuves du monde, trouver d'autres lueurs, d'autres rives fécondes. Oui, ils s'envolent. Peut-être cherchent-ils, dans un carré de bleu là-bas, dans le lointain, une longue caresse qui lisserait enfin jusqu'à l'apaisement leur plumage fébrile. Peut-être cherchent-ils dans la folie du vent une île de soleil qui saurait assécher les larmes qui s'enfin perdent à leurs paupières. Peut-être cherchent-ils un seul vrai chant d'amour qui leur permette d'être ce qu'ils sont et de vivre.
Vous écoutez toujours Micro Rebelle Hebdo et nous écoutions une interview de Paul Masson, auteur du livre Chemins et Mémoires, paru aux éditions du Petit Pavé. Interview réalisée le 18 octobre à la Maison Nicodème, où étaient réunies quelques personnes pour une lecture de texte et une discussion autour des thèmes qui traversent le livre, lecture dont vous avez pu entendre quelques extraits. On va maintenant écouter un autre enregistrement qui a été fait cette fois le 20 octobre lors de l'anniversaire du LAG, la fête au LAG. Bon, c'est un enregistrement d'un tout autre genre puisqu'il s'agit d'un radiomaton. On appelle ça également sonomaton. Le principe est assez simple, on installe dans un coin une petite cabine d'enregistrement et les gens se débrouillent avec l'enregistreur et ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Voilà, on a récolté ces témoignages qu'on s'est amusé à mettre en son.
Illumination. Ce terme est utilisé dans le contexte bouddhiste pour désigner l'état d'éveil mental atteint à travers un processus évolutif de purification spirituelle. Ainsi, la pleine illumination se réfère à l'éveil total d'un Bouddha. Le LAG, c'est l'illumination.
Oui, à l'occasion de ce 6e anniversaire, je suis heureuse et surprise de voir autant de croiser autant de gens que je ne connais pas. Belle aventure de 6 ans qui se renouvelle. Je crois que le pari est gagné. Ce lieu est devenu un lieu où chacun vient s'exprimer, partager et trouver l'occasion de répondre à ses besoins. Merci encore pour cette belle fête et félicitations à tous.
Une fois, un soir, on était en réunion au LAG. Il y avait, comme d'habitude, auberge espagnole. On installe toutes les tables, on fait la réunion, arrive l'auberge espagnole et il y a une copine qui a la malencontreuse idée, qui doit arriver régulièrement, de s'asseoir sur une table. Et si vous remarquez qu'il y a une table qui manque un coin, ben vous pourrez dire c'est la faute à cette copine. Elle s'est bien fait mal, mais c'est tant pis pour elle. Mais le LAG, c'est le lieu où on peut se faire mal, mais on se fait mal en se faisant du bien.
En fait, j'ai découvert le LAG quand je suis parti de Liévin. Hein, c'est quand même bizarre. Hein. Et puis, ben, j'ai ramené une fille avec moi.
Ben, j'ai découvert le LAG justement grâce à mon amoureux, qui habite, lui, Liévin, et il a poussé la porte une fois par hasard, et j'étais avec lui. Et du coup, j'ai découvert ce lieu que je trouve génial. En fait, je me dis que toutes les villes, tous les quartiers devraient avoir leur lieu autogéré. Ce lieu où, qui, pour moi, rime avec convivialité, vraiment. Il y a tous les âges, il y a une ambiance super chaleureuse, en fait. Et on vient parler de choses qui nous concernent tous. Aujourd'hui, là, c'est l'anniversaire, donc on vient parler un peu de sujets différents. Je trouve ça trop bien d'avoir plein de thèmes variés sur lesquels parler, mais surtout écouter. Et puis, Bobine Rebelle, hein, je ne suis pas encore venue assister, mais c'est au top aussi. Donc, bravo en tout cas et bon anniversaire au LAG. Et je lèche maintenant la parole à ma copain.
Arthur. Ben ouais, Bobine Rebelle et Babine Rebelle aussi. Surtout important, Babine Rebelle, parce que c'est important de bien manger et de partager, une bonne bouffe autour d'un moment. Enfin bref, en autogestion et ben, pousser la porte du lag, du vieux autogéré qui se trouve à Liévin. Non, c'est pas un hasard. Voilà, c'est un lieu, c'est l'autogestion, ça me parle, voilà, c'est cool, quoi, des échanges, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, de tout, quoi, différentes thématiques, différentes formes, des débats, des concerts, des projections de films, des bouffes partagées et des rencontres. Surtout, c'est ça, créer un lieu avec des rencontres, un lieu où on se retrouve, un lieu où on échange, c'est super important, c'est super. Et longue vie au lag et longue vie à l'autogestion. Et à Liévin en plus, c'est parfait.
Bravo!
Voilà, alors moi, ce soir, à l'anniversaire du lag, aux 6 ans du lag, j'ai croisé des copains de Beauvais qui sont venus. Et j'ai appris qu'à Beauvais, il y avait des gens, au moins une bonne cinquantaine, qui réfléchissaient à faire un lieu, à se réunir, à essayer de créer des alternatives sur Beauvais. Et du coup, c'est un peu... Comment dire, ça fait plaisir de savoir qu'à Beauvais aussi, il y a des gens qui cherchent à faire des choses et voilà, on s'imagine pas toujours que dans des villes comme Beauvais, il se passe des choses. On s'imagine pas toujours que dans des villes comme Liévin, il se passe des choses. Et voilà, ça fait plaisir de le savoir. Donc, sachez-le, si vous traînez du côté de Beauvais, arrêtez-vous, il y a peut-être des choses à voir dans cette ville. Voilou.
Franck, toi, c'est la première fois que tu viens au lag.
Oui, c'est la première fois.
Comment t'en as entendu parler, en fait?
Ben, de boucher à l'oreille.
Ouais. Et t'en penses quoi?
Ben, j'ai aimé la soirée. Je pense que je ne rentrerai pas dessus. J'ai appris plein de choses. Et j'ai découvert aussi que lag, au fait, travaille pour une bonne cause, défend aussi, au fait, de très bonnes valeurs qui sont d'actualité, la lutte contre l'anticapitalisme, la lutte contre le racisme, etc. Et puis, au fait, c'est des valeurs pour lesquelles, au fait, je me retrouve aussi. Je pense que je ne rentrerai pas dessus.
Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au lag, on se sent vachement chez soi. Moi, je ne suis pas venue depuis 2 ou 3 ans. Et bah, c'est comme si j'étais à la maison.
Trop bien.
Et toi, Bléma, dis-nous tout.
Oui, dis-nous. Mets-toi près du micro, parce que...
Voilà, bon, moi, je n'ai rien à dire que...
Si.
Qu'est-ce que... Bonne fête seulement, quoi. On s'amuse bien et puis ça se passe bien. Voilà. Quand même, avec tout ce monde-là ce soir, on a été tellement ravis et puis on a été tellement enchantés de voir tous ces gens-là qui viennent pour l'anniversaire du lag, donc ça fait vachement plaisir, quoi. Voilà, c'est ça.
Et le mot pour la fin, Elsa. Attention, c'est le plus important, le mot pour la fin. Non, moi, je trouve que ce que vous avez dit, c'est super, parce que des gens qui sont là depuis assez longtemps, je pense qu'on en entendra, tu vois. Souvent, c'est ces personnes-là, d'ailleurs, qu'on fait parler, tu vois. Toi qui as l'expérience du lag, toi qui as créé le lag, et tout, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, je trouve ça intéressant d'avoir justement les réactions, soit de personnes qui ont fait partie du lag et qui ont fait une pause et qui reviennent, tu vois. Comme toi, par exemple, que tu te dises que tu te sens bien chez toi encore, que du coup, ça veut dire que tu retrouves une certaine énergie, finalement. Je trouve ça génial. Et que Franck et Bléma, ouais, qu'il y ait aussi vos... Je trouve ça important qu'il y ait aussi vos paroles à vous de personnes qui débarquaient, quoi, au lag. Est-ce que tu te sens bien quand t'es là? Ou est-ce que, tu vois, tu te sens pas à l'aise? Tu vois, tout ça, c'est important. Mais voilà. Et ben, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Alors, je suis Christelle. Le lag, enfin, on passe une super soirée avec plein de rencontres. J'ai suivi un atelier avec Louise sur le nucléaire. On discute, on échange. Les discussions sont ouvertes, on apporte ce qu'on connaît, on avance, on réfléchit surtout. Et la vie est faite de ça, de rencontres. Et quand on fait de belles rencontres, comme ici en Lag, eh bien, on avance. Voilà. Et merci au Lag d'être là et de permettre aux gens de se rencontrer.
Bien, moi, je suis Véronique et je vais vous parler des prémices du Lag. Voilà, nous étions un groupe de personnes, 12 environ, au point commun de ne pas aimer ce qui nous est imposé, surtout par l'État, donc avec une envie d'indépendance, de toute structure institutionnelle, et avec une énergie positive pour créer quelque chose. Et nous avons donc ensemble créé le LAG, un lieu vivant qui rassemble aujourd'hui énormément de monde pour sa fête d'anniversaire. Et c'est un moment magique, Donc bon anniversaire le LAG.
Je crois que tu auras un patron quand tu seras grand.
Non.
On peut pas.
Non. Voilà, donc normalement ça doit fonctionner. Alors bonjour, et ben voilà, c'est Didier. Je suis militant au LAG depuis le début. Voilà, je suis objecteur de croissance, libertaire, féministe. Je suis surtout moi, enfin j'essaye d'être moi tous les jours. Le LAG était pour moi un rêve, une utopie, un endroit où on pourrait essayer de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire ailleurs. C'est-à-dire débattre entre nous librement, sans hiérarchie, sans contrainte. Débattre avec des gens qui sont différents de nous, même si on est globalement sur quelques longueurs d'onde similaires, mais des gens avec qui on a des différences. Voilà. Donc le LAG, c'était ça, c'est ça toujours 6 ans après. Et 6 ans globalement de plaisir, de bonheur, mais vraiment de bonheur, sans restriction, avec des âgés parfois mouvementés, il y en a eu quelques-unes, ouais, c'est vrai, mais globalement des âgés où on rit plus souvent et où on s'enrichit plus souvent qu'on ne s'engueule. Des moments rares dans la vie où finalement on se sent un homme, une femme heureux à sa place et acteur de ce qui nous entoure. Voilà, tout ça, j'essaye de le dire avec des pas grands mots, donc c'est justement des pas grands mots que j'utilise. Les sociologues feraient ça autrement, moi je suis pas sociologue, je suis juste un militant qui essaye d'aller au bout de sa logique. Donc le bout de ma logique, c'était de participer notamment à la création d'un lieu autogéré, c'était de participer à des coopératives, j'en ai créé, ben voilà, wali walou, tout va bien. Je jardine, j'essaye de rendre des gens à côté de moi heureux. Et quand même, plein de gens me rendent heureux. Voilà. Et le LAG me rend fondamentalement heureux. Merci.
Ben, j'ai envie de dire que ça fait quand même sacrément du bien de voir tous ces amis du LAG se retrouver pour une soirée. Ça rappelle les débuts du LAG. Et on se dit qu'à la fois, c'est un mélange de choses qui n'ont pas changé, puis de choses qui ont changé, hein, parce que quand on se souvient de toute l'équipe qui est venue ici abattre des murs, faire des peintures, couvrir du carrelage et s'interroger pour savoir si la déco, ça allait être plutôt du minéral ou du végétal, bah, ça fait sourire aujourd'hui, mais c'est quand même très chouette comment c'est devenu, et puis aujourd'hui, le minéral ou le végétal, on s'en fout, mais l'ambiance, ce qui nous environne, c'est quand même très chaud de toute façon.
Eh bien, bonsoir, je m'appelle Bruno Roussel, je suis un des premiers actionnaires du LAG. Cette soirée s'est bien passée, un peu rock'n'roll et casse-oreilles. Les temps changent, mais les lagueurs ne changeront pas. Vive le combat! Come on.
Vive le combat, un mot de la fin qu'on partage à Micro Rebelle. Voilà, c'était un enregistrement qui a été fait lors de l'anniversaire du LAG et qui lui fait tout à fait honneur, qui lui rend hommage à ce très sympa lieu liévinois. Voilà, je rappelle que c'était des témoignages libres, les gens, il n'y avait personne pour leur tendre la perche. Nous, on a juste recollé les morceaux et arrangé la bande son.
Bien, merci à toutes et à tous, cette émission se termine. Ah, peut-être une information avant de rendre l'antenne, comme on dit. Sur microrebelle.fr, on a plusieurs émissions qui passent en direct et on en aura une mardi. Donc ce mardi 13 novembre, on aura une émission spéciale Chapeau Débat sur la convergence des luttes. Alors on a déjà eu plusieurs éditions de Chapeau Débat. On a eu le LAG justement, on a eu Rivière, Nature et Patrimoine, on a eu les AMAP, les Objecteurs de Croissance, Culture et Liberté, Au Secours 62, et ce mardi 13 novembre, donc en direct sur microrebelle.fr, on aura nos amis de Sud Éducation et du Planning Familial 62. On va les accueillir, ces deux collectifs, on va les accueillir ici dans les studios de Microrebelle, et on va discuter de leurs initiatives, de leurs activités, et surtout de comment eux envisagent cette convergence des luttes à Sud Éducation et au Planning Familial 62. Donc je vous rappelle, c'est ce mardi 13 novembre à 18h, en direct sur Internet, sur microrebelle.fr.